Alors, pour Tribune Nord, Stéphane Richon et Alexandre Rossignol.
Bonsoir à tous.
Bonsoir à tous. On est à l'interview avec les deux joueuses de l'équipe féminine du Servette FC, Sandy Mendley et Maëva Sarrazin. Merci de votre présence.
Merci à vous.
Merci, au plaisir.
Sandy arrivée en 2018 au Servette, Maëva arrivée en 2014. Donc Maëva a connu la promotion. Sandy aussi. Vous êtes arrivée juste avant. Donc, on va commencer par vous présenter un petit peu votre expérience générale de football, Sandy avec des expériences à l'étranger, et puis parlez-nous un petit peu de vous, présentez-vous.
Rien, comme vous l'avez dit, je suis genevoise. J'ai commencé d'abord avec les garçons à Grand-Lancy, ensuite j'ai vite passé avec les filles. J'ai dû me décider à l'âge de 18 ans de faire le pas un peu plus haut pour aller jouer en Liga, vu que malheureusement à Genève c'était pas possible. Et puis j'ai fait le choix d'aller à Berne. Et ensuite j'ai fait 4 ou 5 ans là-bas, 4 ou 5 saisons. Et ensuite je suis partie en Italie. J'ai fait aussi 5 ans là-bas et très belle expérience. Je suis retournée en Suisse avec une expérience à Neunkirch un an et demi. Malheureusement, le club n'a pas pu continuer avec des problèmes financiers. Je suis repartie en Espagne pour une demi-saison et je suis revenue à Servette ensuite, justement, juste à temps pour la promotion.
Maëva, de ton côté, un petit peu une expérience plus suisse. Je te laisse te présenter aussi.
Tout à fait. Donc moi, j'ai commencé assez tard par rapport à mes coéquipières. J'ai commencé à l'âge de 12 ans le foot. Dans ma région de Terre Sainte, où on n'avait pas vraiment de championnat, où on a créé l'équipe. Et après, j'ai fait une année, je suis venue à Chenois, en Ligue B, directement à l'âge de 13-14 ans. Je suis arrivée en Ligue B. J'ai fait 4-5 ans et après, j'étais en Liga à Yverdon. Et j'ai fait 8 ans à Yverdon. Après, à la base, je suis revenue ici pour jouer, pour calmer un petit peu. À la base, je voulais jouer avec la 2. Et puis, y a eu ce projet de Servette qui est arrivé quelques années après, où ils m'ont demandé d'intégrer le projet. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et maintenant, je suis encore là.
Alors pour commencer, on va pour parler de la Coupe du Monde féminine. Donc je pense que vous avez tous vu ce qui s'est passé. Donc les Américaines se sont imposées 2-0 en finale face aux Pays-Bas. Donc elles ont conservé leur titre et empoché leur quatrième étoile. Qu'avez-vous pensé de cette Coupe du Monde au niveau des impressions, au niveau du bilan et des ressentis? Par exemple pour vous, Sandy, qui est intervenu sur RTS au niveau des analyses d'avant-match et d'après-match pour les demi-finales et la finale. Qu'avez-vous pensé en général, Maëva et Sandy, sur cette Coupe du Monde au niveau de l'engouement médiatique, du niveau de jeu et de cette victoire américaine?
Positif sur tous les points de vue. Je pense que le public a eu du plaisir à regarder cette Coupe du Monde. Je pense qu'au niveau footballistique, le niveau s'est élevé comparé aux autres années. Ensuite, au niveau médiatique, c'est sûr que ça a fait un énorme boom. On en a beaucoup plus entendu parler que les dernières Coupes du Monde. Peut-être aussi parce que, voilà, avec la proximité de la France, c'est vrai qu'avec leur publicité, c'est vrai qu'on en a pas mal entendu les mois précédents. Maintenant, je pense que c'est l'évolution un peu logique du football féminin ces dernières années, où on voit justement des équipes masculines qui reprennent des équipes féminines, qui donnent des moyens et des structures aux joueuses et voilà, on voit les résultats.
Oui, c'est sûr que ça a beaucoup apporté, je pense, cette Coupe du Monde en France, parce que les Français sont quand même un peu plus avancés que nous, clairement. Et je pense que c'est très positif pour la suite. Et moi, par contre, pour cette Coupe du Monde, j'ai vraiment été très impressionné par les Américaines au niveau footballistique, à tous les niveaux. J'ai vite compris que ça allait être compliqué de les battre. Et voilà, le résultat est là. Elles ont été championnes du monde. Mais c'était une belle Coupe du Monde. Il y a eu des très beaux matchs, notamment la demi-finale USA-Angleterre. Et je pense que c'est bien pour montrer aux hommes comme quoi les femmes, elles savent très très bien jouer au foot.
Oui, d'ailleurs, est-ce que ça vous inspire en tant que joueuse du Servette FC de voir les Américaines, leur comportement, l'intensité qu'ils peuvent mettre dans les matchs, les duels, etc. De dire, est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça, vous trouvez que c'est parfois, comme on peut le voir dans d'autres dans d'autres niveaux, un autre sport, quand on voit la Coupe du Monde, où on se dit c'est vraiment très élevé, ou est-ce que au contraire vous dites c'est une source de motivation pour la progression?
Ouais, je pense. Après, c'est sûr que les Américaines, elles ont aussi une autre culture, faut pas l'oublier. C'est vrai que chez elles, le foot fait partie un peu depuis toute petite, fait partie un peu de la vie, quoi. Enfin, pour les filles, c'est normal de jouer au foot, on va dire. C'est vrai que nous, ça fait quelques années seulement que c'est arrivé, donc on a quelques années de retard par rapport à ça. Puis après, ben voilà, ils ont une culture du sport en Amérique qui n'est pas la même que chez nous, et on le voit aussi un peu dans leur grinta, dans leur... Dans tout ce qui est l'aspect physique, voilà, c'est pas, on a l'impression qu'elles ne sont pas faites comme nous, en fait. Donc c'est vrai que nous, ça nous montre où sont les limites, mais aussi où sont les nôtres de limites. Et c'est vrai qu'on voit la différence entre leur football et le nôtre.
Ouais, c'est sûr, quand on les voit jouer, ça donne envie d'élever son niveau, parce que c'est un sacré niveau. Et ouais, c'est une autre culture, c'est vrai que ça se voit tout de suite. Elles ont une manière de bouger sur le terrain, elles sont physiques, et en plus, on voit qu'elles ont confiance en elles. Donc. Je pense que c'est ultra intéressant d'avoir confiance, parce qu'on dit des fois qu'il ne faut pas avoir trop confiance, mais elles, vraiment, c'est un atout pour elles, cette confiance qu'elles ont dans l'équipe.
On a aussi vu au niveau médiatique que ça avait pris un sacré engouement. On a vu que la ville de Genève avait lancé une fan zone pour les demi-finales et les finales. On vous a notamment vu présente avec le Sarajevo Chevron féminin. Et cette fan zone, on a eu l'impression qu'il y avait pas mal de gens qui étaient. Je crois qu'on parlait de 700 à 1000 personnes au niveau pour la première demi-finale. Quelles sont les impressions qu'elles ont laissées cette fan zone au niveau de l'organisation? Est-ce que pour les prochaines compétitions telles l'Euro 2021, est-ce qu'on ne pourrait pas un peu faire mieux au niveau de cette fan zone? Qu'est-ce qui resterait amélioré pour vous?
Alors, la fan zone, c'était une très bonne idée, vraiment. On a vu l'engouement. Moi, j'étais vraiment étonnée en bien de voir tout ce monde. C'était génial. Je pense qu'il faudrait la refaire, mais pas seulement pour les derniers matchs. Je pense qu'il faudrait faire comme les hommes dès le début.
C'est pour ça que j'avais dit que c'était un peu de la... Le fond était bien, mais la forme était assez à discuter.
C'est,
quoi.
C'est exactement ça, parce que c'était très bien ce qu'ils ont organisé, mais c'est juste dommage. Alors, je pense qu'ils ont fait un essai pour voir aussi si ça amenait du monde. Je pense qu'ils ont pu voir que ça amenait quand même pas mal de monde. Je pense que beaucoup de monde était étonné. Et je souhaite et j'espère que ça va être le cas, que pour l'Euro, ils fassent ça, mais depuis le début, quoi.
Au niveau de la Suisse, elle n'était pas présente à la Coupe du Monde. Quel effet vous attendez en Suisse de cette Coupe du Monde? La proximité avec la France peut avoir un effet en Suisse. Comment est-ce que vous voyez les choses?
Ben, on espère. Après, c'est sûr que ça aurait été mieux si la Suisse était qualifiée. C'est vrai qu'on aurait pu profiter de ce grand boom que je pense là maintenant toutes les nations ont pu profiter. C'est vraiment dommage. Maintenant, je pense que justement là, à Genève, en plus on était la première fan zone et la seule en Suisse. Pour une fois qu'on est en avance sur les autres, c'est vrai que c'est étonnant. Et voilà, je pense que... Ça a montré aussi aux gens qu'un foot différent, je pense que des fois il y a pas mal de préjugés, ils ont encore en tête le football joué des filles il y a peut-être 10-15 ans, et c'est vrai que ça, le football a évolué depuis, et ouais, c'était bien de voir aussi le rapport avec les gens, parce qu'au final on était là, ils nous posaient des questions, hein, mais du coup vous jouez où, ça se passe comment les entraînements, et ça intéresse les gens au final, et donc du coup c'est peut-être potentiellement des personnes qui typiquement dans 2 ou 3 mois diront ah bah pourquoi on va pas avoir joué le Servette ou que ce soit n'importe quel club genevois.
Ou inscrire une autre fille dans un club de football.
Ouais, complètement, c'est vrai que ça, on a vu quand même l'intérêt des gens, les gens posaient beaucoup de questions, les gens étaient intéressés, et ça fait plaisir de voir que les gens s'ouvrent gentiment, donc c'est plutôt positif pour la suite.
Alors on va parler maintenant du Servette FC chinois féminin. Donc on sait que l'équipe sort d'une très belle saison, une très belle première saison au niveau de en LNA, donc qui s'est maintient tranquillement assuré une belle 4e place. On sait que le contingent a été stabilisé, pas mal de joueuses ont re-signé et ça a été renforcé par quelques joueuses de qualité comme Carolina Bay qui a un vécu incroyable au niveau du foot féminin avec l'arrivée de Amandine Soulard qui vient de l'Olympique de Marseille. Toutefois, par rapport à la saison dernière, est-ce que vous avez quand même des regrets de ne pas avoir fini cette deuxième place qui était qualificative pour la Champions League féminine?
Je pense qu'on peut avoir des regrets, c'est normal, parce que quand on voyait comme on était proche de cette deuxième place, donc des regrets on a, mais après il faut rester positif parce que c'était notre première année en première division, enfin en Liga, et la plupart des filles quand même, elles n'avaient jamais évolué à ce niveau-là. Donc on n'a aussi pas eu beaucoup de chance, il y a eu pas mal de blessures en fin de saison, donc c'est tout un processus où ça nous a empêchés d'atteindre cette deuxième place, mais d'un côté c'est pas plus mal, parce que la deuxième place c'était significative de Champions League, donc je sais pas si vraiment on était prêts pour ça aurait été une magnifique expérience, mais voilà, cette année... On a mis les choses en place, le recrutement. Ils ont fait fort au niveau du recrutement.
Très très fort.
Et
même.
Tant mieux. C'était le but. Nous, on a quand même des objectifs aussi, étant en fin de carrière. Et voilà, cette année, on va essayer de jouer les trois premières places.
Justement, au niveau des objectifs, quels objectifs d'équipe et personnel pour cette nouvelle saison?
Bah, comme elle vient de le dire, c'est sûr que voilà, on veut faire mieux que l'année passée, c'est sûr. Donc c'est dans les trois meilleures places. Et je pense qu'au vu de la saison qu'on vient de faire et au vu justement des recrutements qui ont été faits, elle est jouable. Et voilà, on va essayer de faire au mieux parce que je pense que tout le club aussi le mérite, tout le travail qui s'est fait autour. C'est vrai qu'on le répète peut-être pas assez ou les gens le savent pas non plus assez, mais on parle souvent du FC Zurich, du FC Bâle. Mais pas beaucoup de clubs font ce que le Servette fait au niveau féminin, c'est-à-dire qu'ils soutiennent vraiment les joueuses et essayent de mettre des conditions aux joueuses les plus sereines possibles.
Oui, ça c'est vrai que c'est important de souligner quand même le travail du Servette dans la section féminine, parce qu'on voit quand même qu'ils font des efforts, des énormes efforts, et ça donne envie de se battre aussi pour ce club.
Par rapport à Yverdon, qu'est-ce qui change par exemple pour un club comme Servette? Quels sont les points de comparaison que vous pouvez faire? Vous parlez de bonnes situations, quelles sont-elles finalement concrètement?
Par exemple, moi, par rapport à Yverdon, typiquement, on a des physios quasiment tous les jours. Il y a un entraîneur de gardien qui est tout le temps là. On est vraiment bien encadré. On a des structures, on a un médecin. On a des primes de match, c'est ridicule, mais je veux dire, à Yverdon, on payait une cotisation pour jouer au foot. Voilà, on a des équipements. À Yverdon, ça a mis des années avant qu'on ait des équipements. C'est tout des petits trucs comme ça où voilà, on sent qu'au Servette, ils veulent quand même, à la longue, professionnaliser le football féminin. Et c'est plutôt correct et intéressant et positif pour la suite.
D'ailleurs, des signes de positif là-dessus, vous portez le même maillot maintenant que les garçons. Est-ce que ça fait partie de cet environnement qu'on veut vous donner aussi? Et puis, est-ce que c'est du coup plutôt une fierté, une pression ou juste un peu normal dans la politique du club, et ça vous apporte rien de spécial, on va dire?
Non, bah justement, ça montre justement la politique du club, c'est-à-dire que c'est eux qui ont dit non, l'année prochaine, on aimerait que vous ayez les mêmes maillots que les hommes, parce que voilà, même si on n'a peut-être pas exactement le même nom, vu qu'on reste quand même Servette FC Chénois féminin, ils nous intègrent intégralement, enfin, ils nous intègrent vraiment dans le club, et c'est justement pour montrer cette. Un peu cette liaison et puis ce partenariat qu'il y a entre les deux équipes. C'est vrai que nous, on va souvent regarder les matchs des garçons. Quand le lendemain de leur titre, ils sont venus nous voir à la Pride. Enfin voilà, je trouve qu'il y a un échange qui est assez sympa au niveau de ça, et voilà, c'est agréable.
Justement, l'équipe masculine, donc on veut savoir quels sont vos rapports au niveau avec les garçons. Est-ce que vous les croisez ou les côtoyez souvent? Et sinon, est-ce que vous souhaiteriez, par exemple, faire plus d'événements avec eux, par exemple, comme on a vu récemment avec l'équipe de France masculine?
Christopher Routis, je pense que ça peut vraiment donner quelque chose de bien.
Moi, on le connaît, l'oiseau.
Qu'est-ce que vous pourriez, par exemple, faire au niveau, comme l'équipe de France a fait, la Fédération française a fait, avec un repas avec les hommes, les espoirs et les féminines, juste avant leur séance? Qu'est-ce que vous souhaiteriez faire de plus au niveau de leur collaboration, par exemple?
L'année passée déjà, on a été intégrés au repas de soutien qui a eu lieu à Palexpo, donc ça montre de nouveau cette envie de lier les deux équipes ensemble. Ensuite, voilà, alors moi personnellement, j'ai pu effectuer un stage l'année passée au sein de l'équipe masculine, donc c'est vrai que j'ai pu les côtoyer quelques temps, et justement en faisant ça, j'ai pu aussi remarquer que voilà, il n'y avait pas d'a priori, et j'ai très bien été acceptée et intégrée à l'équipe, et voilà, du coup ça les a intéressés peut-être aussi de suivre notre équipe. Ils suivaient tous les résultats, ils me demandaient comment ça s'était passé le week-end, donc voilà, il y a un échange qui se fait, et c'est positif, ouais.
Plus le temps va passer, puis plus on aura la possibilité, justement, avec maintenant qu'on a les mêmes équipements, on pourra un peu plus les côtoyer, faire des événements avec eux. Je pense que c'est très intéressant pour nous. Et puis c'est une fierté aussi de pouvoir un peu côtoyer la première équipe.
On parle justement de la première équipe masculine qui sort d'une saison quasiment parfaite, tant au niveau du résultat que du jeu présenté. Est-ce que ça représente une source d'inspiration pour vous quand vous allez voir jouer, de voir le jeu qu'ils développent, ou de les voir potentiellement à l'entraînement de temps en temps?
C'est sûr qu'on regarde, qu'on s'intéresse toujours un peu au football. Et puis quand tu vas le week-end voir les matchs à la Praille ou n'importe, c'est toujours intéressant. Et puis t'essayes de remettre ça après en place sur le terrain. Après que ce soit le Servette où on est un peu toutes fans de plusieurs équipes. Enfin voilà, ça dépend un peu. Mais c'est vrai qu'on regarde toujours les garçons avec un œil un peu observateur pour essayer de faire les mêmes choses ensuite le week-end.
Oui, c'est vrai. En plus, ils ont fait une sacrée saison quand même cette année, vraiment. Et on a senti une force aussi mentale dans cette équipe que tout le monde critiquait les années passées. Et donc, c'est plutôt inspirant pour nous, effectivement.
Donc, quel regard pouvez-vous porter sur cette équipe? Est-ce que vous pouvez retirer au niveau individuel, collectif? Qu'est-ce que vous pouvez un peu retirer là-dedans, quoi, de cette équipe?
Je pense que ce qui fait la force de cette équipe, là, au jour d'aujourd'hui, c'est la cohésion de groupe. Ils sont très solidaires et ça se ressent sur le terrain. Et voilà, on a vu aussi cette année, plein de fois, ils perdaient au début et à chaque fois, ils revenaient. Donc je pense que vraiment, c'est une grande force. Alors, il y a bien sûr des talents individuels, mais la cohésion d'équipe et l'état d'esprit est clairement bon et c'est clairement une force pour eux.
Et quel joueur au niveau individuel vous a fait le plus frapper l'année dernière?
Quel joueur a été le plus impressionnant pour vous?
Forcément Stefanovic avec ses débordements et ses centres. Ensuite, je ne veux pas en citer qu'un, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de talents dans cette équipe. Et voilà, mais ouais, il y a Konya au milieu, Rouillé et Routis ont fait une saison impeccable aussi derrière. Enfin voilà, je pense que tous les joueurs, les 23 qu'il y avait dans l'effectif, ont fait leur boulot parce que sinon, on ne décroche pas une promotion comme ils ont pu la décrocher, quoi.
D'ailleurs, ensuite de la promotion, une nouvelle saison s'annonce pour eux au plus haut échelon. Vous l'avez fait l'année passée. Quel regard portez-vous sur la saison qui vient pour l'équipe masculine? Comment est-ce que vous les voyez? Qu'est-ce que vous observez et qu'est-ce que vous attendez de cette saison?
Qu'ils se maintiennent déjà, ça c'est sûr. Je pense que c'est le but. Mais en général, moi j'ai aucun doute sur le fait qu'ils vont se maintenir parce qu'avec la force de mental qu'ils ont et ce groupe très fort. C'est jamais la première saison qui est difficile quand on monte, c'est toujours la deuxième. Donc on attend d'eux qu'ils se trouvent avec les nouvelles recrues et qu'ils nous présentent un beau jeu comme ils nous ont présenté jusqu'à maintenant.
Au contraire de Corinne Diac, en fait.
C'est ça.
Je pense qu'ils vont devoir aussi évoluer aussi un peu dans leur jeu. C'est vrai que là, ils étaient toujours favoris en challenging avec un jeu alléchant vers l'avant, ultra offensif, on va dire. C'est vrai que je pense qu'en arrivant en Super League en tant que promu, tu dois un peu changer ta façon de jouer parce que tu peux pas te permettre de jouer aussi ouvert contre des équipes peut-être à la base plus fortes que toi. Donc, je pense qu'il y a peut-être un petit temps d'adaptation à ça. Et puis voilà, mais j'ai aucun souci sur le fait qu'ils vont tout donner et qu'ils vont réussir à se maintenir.
Alors une petite question maintenant sur le développement du football féminin. Donc Sandy, on a vu dans votre parcours que vous avez joué dans le championnat italien et dans le championnat espagnol. On voulait savoir, de par votre expérience, quelle différence y a-t-il entre le championnat suisse et l'étranger? Et qu'est-ce qu'on pourrait implanter encore plus au niveau du foot féminin en Suisse pour qu'on soit dans le... On est un championnat pas trop, on est avec un meilleur niveau et presque au niveau de ces championnats. On est en Espagne récemment, on a vu l'équipe d'Espagne prendre un très beau jeu lors de la Coupe du Monde. L'Italie est en quart de finale et a perdu vraiment d'un rien face aux Pays-Bas. Qu'est-ce qui manque encore à la Suisse pour vraiment être qu'est-ce qu'on peut apporter de ces deux cultures footballistiques pour que le foot féminin en Suisse soit mieux développé?
Je l'ai souvent répété, c'est vrai que c'est les mêmes différences qu'on retrouve dans le football masculin. Je veux dire, c'est deux nations du foot. Il n'y a qu'à voir les stades, ils sont toujours pleins avec 60 000 personnes dedans. Et c'est vrai qu'en Suisse, un match de Super League masculin, on peine à remplir 15 000, quoi. Donc c'est une autre culture, les gens sont fanatiques. Et je pense que c'est un peu tout ça qui fait que le football et le sport en général en Suisse traînent un peu, en fait. Et après, il ne faut pas oublier que voilà, c'est des grands pays. Nous, on a peut-être, je pense, la moitié des licenciés. Donc, c'est sûr que la réserve de joueuses est un peu moindre chez nous qu'elles sont chez elles. Après, au niveau footballistique, on connaît le foot espagnol. Et puis, on sait cette façon de jouer avec une ou deux touches, avec beaucoup d'échanges de passes. Enfin, ça, c'est le même un peu dans le foot féminin. Et puis, c'est un peu les grandes différences que je trouve entre les différents championnats.
Au niveau des structures du club, est-ce qu'il y a une grande différence entre ce que tu trouves au Servette et ce que tu trouvais à l'étranger ? Ou ça commence à devenir comparable ?
Bah, quand même un petit peu. C'est sûr que dans ces clubs-là, les joueuses sont toutes pros. Donc nous, c'est sûr que même si on a des super structures et que pour la Suisse, le club fait des grands efforts comparé à peut-être d'autres clubs ici, c'est vrai que dans les autres pays européens, c'est une autre chose parce que les filles, en fait, peuvent vivre de ça. Donc elles se lèvent le matin, elles doivent aller à l'entraînement et ensuite leur journée est finie. Elles doivent pas venir s'entraîner à 7h du soir après une journée de 8h de travail. Donc c'est un rythme complètement différent. Et puis voilà, c'est peut-être justement des moyens aussi différents. Je veux dire, l'Atlético de Madrid, il n'a pas forcément les mêmes moyens que le Servette FC en ce moment. Donc ça se répercute forcément après sur la section féminine, quoi.
Merci. D'ailleurs, quel regard portez-vous sur l'évolution du football féminin, du temps des juniors où vous étiez, à ce que vous pouvez voir, observer sur les terrains à Genève aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une grande évolution ? Est-ce qu'il n'y a pas si grande évolution que celle que vous auriez attendue ? Ou est-ce que cette évolution s'accélère un petit peu et que vous voyez un bel avenir au foot féminin et au développement junior à Genève notamment ?
Bah, une évolution, il y a eu, ça c'est sûr, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Donc il faut être patient, mais on sent quand même une évolution au niveau des structures, au niveau de plein de choses. Même les gens qui s'intéressent, il y a plus de monde au bord du terrain, les gens sont quand même curieux, donc ils viennent juste voir par curiosité. Donc évolution, il y a, mais je souhaite et j'espère que pour le futur, pour les jeunes, qu'il y aura encore plus d'évolution et qu'un jour, on puisse jouer en Suisse et y vivre, quoi, vivre du foot.
Justement, donc on voit maintenant qu'il y a une certaine volonté politique de développer le foot féminin, que ce soit à l'international ou en Suisse. On a avec la FIFA qui veut essayer qui veut vraiment mettre les moyens. Mais est-ce que vraiment, réellement, on veut mettre les moyens en Suisse, par exemple, vraiment, vraiment développer le foot féminin pour que on soit presque au niveau des garçons d'ici quelques années. Est-ce que vous sentez vraiment cette volonté ?
C'est un peu difficile à dire. Moi, j'ai souvent l'impression, et peut-être que là, je vais, les oreilles vont peut-être un peu sonner, mais moi, j'ai l'impression que c'est au niveau de la fédération qui est un peu laxiste sur ce point de vue-là et qui laisse un peu les clubs faire se débrouiller avec les moyens du bord, quoi.
C'est vrai. Pas de subvention de la part de l'ASF.
Alors s'il y en a, alors je connais pas les sommes. Hein. Moi je dis peut-être juste un exemple. C'est vrai que quand on a gagné le titre avec Neunkirch, la prime en tant que vainqueur de la coupe, je crois, c'est 2000 francs. Donc après, c'est sûr que les clubs, oui, alors pour les joueuses, c'est sympa, ça te fait 100 francs, t'es contente, voilà. Mais on y est très loin, et moi je prends toujours l'exemple des autres championnats, et il n'y a rien d'autre à faire pour améliorer le foot féminin, c'est de trouver des sponsors, parce qu'il n'y a que ça qui marche, de donner de la visibilité à la ligue, donc c'est-à-dire d'essayer de, en tout cas une fois par semaine, essayer qu'il y ait une rediffusion ou au moins montrer les buts à Sport Dimanche ou n'importe. Et c'est vrai que tous les autres championnats se sont un peu développés comme ça en cherchant des gros sponsors qui ont du coup pu subventionner tous les clubs de la ligue. Et ça, sur ce point de vue là, j'ai l'impression que l'ASF est un peu laxiste et mise un peu trop sur le fait que ses meilleures joueuses partent à l'étranger et se forme un peu là-bas, quoi, ou continue de se former là-bas.
Au niveau des développements, qu'est-ce qui vous semblerait prioritaire dans le football féminin aujourd'hui ? Quels seraient les axes un petit peu prioritaires que vous mettriez en avant ?
Je pense en Suisse, à mon avis, pour avoir justement un championnat compétitif, c'est de pouvoir avoir des filles à 100% qui, dans le foot, quoi, qui n'aient pas un travail à côté. C'est quand même compliqué quand on travaille à côté de l'énergie, la santé, on donne beaucoup et je pense que ça, ce serait important rien que pour ce championnat qui soit justement élevé et que les filles arrêtent de partir à l'étranger parce que c'est ce qui manque. Parce qu'ici, vu qu'on ne peut pas vivre, donc tout le monde part à l'étranger, donc le championnat il devient de moins en moins fort. Donc je pense que ce serait la priorité pour moi, à mon avis.
Ouais, je pense que c'est la même chose. Je pense qu'il faut qu'on arrête d'accepter le fait qu'on ait une ligue, on va dire, une ligue moyenne et qu'on laisse nos meilleures joueuses partir. Il n'y a pas de raison. n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas être compétitif avec, contre les autres ligues et contre d'autres équipes européennes.
Donc on parlait de la Fédération suisse de football, donc on va parler de l'équipe nationale suisse. Donc l'équipe de Suisse n'était pas présente lors de la dernière Coupe du Monde, battue en barrage face aux futures finalistes néerlandaises. Quel avenir voyez-vous pour cette équipe suisse? Donc pour, par exemple pour vous, Sandy, qui avait été convoqué récemment lors d'un match amical contre en Serbie. Quel avenir voyez-vous de cette équipe? Est-ce qu'on est vraiment proche du Gotha mondial, du Gotha européen mondial? On parle par exemple de certaines joueuses comme Ramona Markman qui joue à Chelsea, de Lara Dickenmann qui a joué à Lyon, qui joue à Wolfsburg, ou de Cernorgovic qui joue en... son est très difficile, qui joue aux États-Unis à l'heure actuelle. Et est-ce que vraiment on sent que l'équipe de Suisse se rapproche gentiment des grosses nations européennes telles que l'Angleterre, les Pays-Bas ou la France?
Et je pense qu'il y a eu aussi un peu la fin d'un cycle après l'Euro aux Pays-Bas. Et c'est ce qui a peut-être aussi un peu pénalisé cette équipe-là lors de ses qualifications pour la Coupe du Monde. C'est vrai qu'il y a pas mal de joueuses d'expérience, justement, notamment Caroline Abbé, qui ont arrêté. C'est vrai que les jeunes qui sont arrivés, qui n'avaient peut-être pas beaucoup d'expérience, ont mis peut-être un peu de temps à se faire à ça. Et sûrement sur cette qualification-là en particulier, je pense que voilà... Peut-être qu'elles pensaient le travail déjà fait et au final, il manquait peut-être ces derniers points juste pour boucler la qualif et ils ne se sont pas faits et c'est dommage, quoi.
Et sinon, au niveau de l'équipe de Suisse, est-ce qu'il y a une très bonne ambiance? Est-ce que vous entendez toutes bien? Est-ce qu'il y a vraiment un groupe qui est en train de se souder pour pouvoir aller faire quelque chose à l'Euro 2021?
Alors là, personnellement, je ne peux pas forcément en parler. C'est vrai que moi...
Quels sont vos ressentis lors de la dernière convocation que vous avez fait?
Elle était un peu particulière vu qu'en fait il y a eu deux convocations en l'espace de deux semaines, avec une convocation justement réservée aux filles évoluant à l'étranger, et celle où je me suis trouvée, on était que des filles évoluant en Suisse, donc c'est vrai qu'il y avait pas mal de jeunes joueuses qui ont fait lors de ce camp leur première sélection, donc c'est peut-être pas une réalité forcément des convocations habituelles, mais en tout cas le camp que j'ai fait, il y avait une super ambiance et il y a vraiment eu dès le départ une belle cohésion de groupe, quoi.
Au niveau de l'ambiance, enfin des chances de qualification plutôt pour l'Euro, comment est-ce que vous voyez le groupe de la Suisse par rapport au niveau que vous ressentez de cette équipe de Suisse?
Les chances, je pense qu'elles sont assez grandes. Le tirage au sort a été fait, on était toujours dans le premier pot, donc c'est toujours positif. Il y a des équipes qu'il ne faut peut-être pas sous-évaluer. Enfin, c'est toujours difficile. Et puis, je le répète, les premiers matchs vont être assez décisifs. On va savoir si on est parti du bon pied ou pas. Mais je pense que voilà, on a toutes nos chances de se qualifier pour cet Euro. J'ai même pas envie de dire qu'on va se qualifier, mais il faudrait qu'on se qualifie. Pour le foot féminin, il faut absolument une qualification, quoi.
Maëva, équipe de Suisse, c'est un objectif?
Non, j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe nationale, mais c'est vrai que moi, avec mon travail, c'était compliqué. C'était pas évident parce que on n'a pas de vacances, parce que les vacances, il faut les prendre pour aller en équipe suisse. Mais j'ai eu la chance de vivre une belle aventure, et à mon âge, c'est pas vraiment un objectif prioritaire.
40 ans.
On vous remercie beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré. On vous retrouvera certainement au cours de la saison. Et bonne chance pour cette nouvelle saison et cette nouvelle aventure, on espère, pour le haut du classement.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Bonne soirée.
Bonne soirée.